This is New York.
Ce building en ciment armé qui ressemble un peu à une casemate est le Guggenheim Museum.
World's largest
New York City is sighting New York City.
Regarde sur New York.
Yes, this is New York.
Vous le voyez dans les rues de New York, la réalité et la fiction s'enchaînent.
Sirène chroniqueur new-yorkais. Ex aequo avec les offres Buy One, Get One Free, les chiots et la finale du Super Bowl, la Period Room est une des grandes passions américaines. Au Met, on découvre ainsi avec surprise une des chambres du Palazzo Sagredo de Venise. Au Museum of Fine Arts de Boston, nous voilà sur le seuil de la salle à manger d'une maison construite en 1800 à Peabody, Massachusetts. Au Brooklyn Museum, voilà la smoking room de la Rockefeller House, ses velours noirs, sa cheminée, quelques bûches dans le foyer, ses porcelaines, ses tapis persans. Jusqu'en 1865, il fallait être admis dans la demeure personnelle des Rockefeller au numéro 4 de la West 54th Street pour pouvoir voir la smoking room. Aujourd'hui, il suffit d'aller au musée. C'est en Europe que des intérieurs remarquables commencèrent d'être sauvegardés et installés dans les musées. Le concept s'exporte outre-Atlantique lorsqu'en 1869, le South Kensington Museum acquiert le cabinet Serilly, construit en 1778 à l'hôtel de Serilly dans le Marais. Et c'est aux États-Unis que la Period Room prospère. Elle devient un must-have dans la première moitié du XXe siècle. Chaque musée d'arts appliqués ou de beaux-arts souhaite en posséder au moins une, et l'acception du terme s'étend pour désigner non seulement des intérieurs réels déplacés dans l'enceinte d'un musée, mais aussi des intérieurs fictifs, telle la Campin Room du Met, où est exposée dans un décor typique du XVe siècle flamand l'Annonciation de Robert Campin. L'objectif est alors double, exposer le contexte, l'atmosphère dans laquelle une œuvre a été créée, mais aussi créer un continuum entre l'œuvre et son lieu. Ce sont ainsi les mêmes rideaux rouges, le même mobilier de bois que l'on voit dans la pièce et que l'on retrouve mis en abîme dans la toile de Robert Campin. Nous voici donc aux antipodes du White Cube. La Period Room a connu son apogée durant les années 20, puis son déclin, au moment précis où le modernisme et les révolutions muséographiques déclenchées par les musées d'art moderne, MoMA en tête, érigent le cube blanc comme seul espace possible pour l'œuvre. Jugée trop décorative, trop encombrante, accusée de tromper les visiteurs en donnant à leur fantaisie le masque de l'exactitude scientifique, les Period Rooms deviennent alors objets de suspicion. Ont-elles pour autant été rayées de la carte muséographique nord-américaine? Le White Cube a-t-il tué la Period Room? Loin de là. Car non seulement la Period Room a survécu, mais elle fait aujourd'hui un retour en force. En 2010, le Museum of Fine Arts de Boston a rouvert les siennes, qu'il avait sacrifiées en 2003 par manque de place. En 2011, le Met a rénové et inauguré à nouveau les Period Rooms de son American Wing, et la section est présentée comme la plus populaire de tout le musée. White Cube et Period Rooms, chacun à l'extrême du spectre muséographique, cohabitent donc, régnant en maître sur leur territoire propre. La Period Room pour l'art ancien, le White Cube pour l'art moderne et contemporain. C'est au Met, d'ailleurs, que cette coexistence doublée d'une partition territoriale se révèle avec le plus d'acuité, puisqu'à quelques mètres de l'American Wing, de la Campin Room, de toutes ces salles où chandeliers et porte-couteaux viennent encadrer les œuvres, se situent les collections d'art moderne et contemporain à la muséographie éthérée, décontextualisée, blanche, comme on parlerait d'une écriture blanche. Et pourtant, n'y aurait-il pas un point commun à ces muséographies qui semblent si drastiquement opposées? La Period Room, présentée comme une reconstitution, comme une restitution à l'identique d'un état soi-disant réel, dissimule aux yeux du visiteur la main du curateur. La Campin Room prétend ainsi restituer l'œuvre de Robert Campin à son espace originel, créant un lien indissoluble entre une œuvre et un espace spécifique, un lieu qui lui serait propre. L'argumentation essentialiste qui sous-tend le White Cube et le justifie n'en fait-elle pas tout autant? Le mur blanc serait le milieu naturel de l'œuvre, l'écosystème spécifique réclamé par l'œuvre elle-même et non pas librement choisi par le curateur. Exposé signifierait alors restituer l'œuvre à son milieu. L'excès de la Period Room, comme le dénuement du White Cube, apparaissent alors fondés sur une oblitération du geste du conservateur, commissaire, curateur, quel que soit le terme que l'on souhaite adopter, et de la dimension de choix, d'arbitraire, d'artificialité, propre à tout acte d'exposition.